Chapitre 10. Monique! À cet appel, la jeune fille se retourna. Derrière elle, M. Dunois montait l'escalier couvert d'un tapis, si bien qu'elle ne l'avait pas entendu venir. « Monsieur ?» répondit-elle. Il montait toujours, et comme elle était au-dessus de lui, il lui chatouilla les mollets du bout de sa canne. Elle resta imperturbable. « C'est gentil, dit-il, tes jupes courtes. Tu as de jolis pieds, mais tu portes de bien vilains souliers. » « C'est beau quand il fait gros temps, » répondit-elle. « On ne se mouille pas les pieds. »« Oui, mais c'est laid dans la maison, et puis ça craque. » Il l'avait rejointe. Elle continua à monter les marches, deux par deux, et fut bientôt sur le palier. « Tu ne devrais pas porter ça, » insista M. Dunois, en promenant sa canne autour du pied de la jeune fille, bien cambrée sur le tapis. « Mais je ne suis pas assez riche pour acheter du fin, » répondit-elle avec un peu d'humeur. « Tu crois, oh, voyez-vous l'avarice, et être jolie, ça ne compte pour rien ? Est-ce que je ne suis pas jolie comme je suis ?» répondit audacieusement Monique. M. Dunois se mit à rire. Ce n'était pas la première fois qu'il avait avec la jeune servante ce qu'il appelait une pique. Dans les commencements, elle n'osait répondre, puis elle s'était enhardie, et la vertu villageoise ne désessait pas ces altercations toutes de coquetterie où elle trouvait à se faire valoir. « Ton amoureux ne te permettrait pas de porter du fin, comme tu dis ?» continua M. Dunois. « Mon amoureux ? Ah bien, s'il voulait se défendre, mêlé de me défendre quelque chose, il y perdrait son temps, » fit Monique. « D'autant plus qu'ici, il n'en verra rien, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu chausses en fait de pointure ?»« Du 34, » répondit la fillette. M. Dunois tira une pièce d'or de sa poche. « Tiens, dit-il, ce sera pour t'acheter du fin. » dit-il en lui présentant. Monique le toisa dédaigneusement. « Je ne prends que mes gages, dit-elle, ou bien des étrennes. Madame m'a payé mon mois, et le 1er janvier n'est que dans 6 semaines. » Son louis entre le pouce et l'index, M. Dunois resta fort penaud. « De la dignité, » fit-il en essayant de sourire. « Oh, mais Monique, tu te donnes des airs !» Elle fit mine de vouloir entrer dans l'appartement. Il la retint par le bras. « Mais qu'est-ce que vous me voulez ? » dit-elle un peu haut. Il lui planta un baiser dans le cou, à l'endroit où les cheveux frisaient. « Voilà, » dit-il, « allez, à présent, tu peux t'en aller. Je fais une bonne affaire. » Et il remit ostensiblement le louis dans sa poche et passa devant. Monique le regarda entrer d'un air très mécontent. « Il m'ennuie, celui-là » pensa-t-elle. « Oh, s'il n'était pas le mari de ma petite madame, je l'aurais remis à sa place depuis longtemps. » Oui, mais elle ne l'y remettait pas à sa place. La vérité, c'est qu'elle était à la fois ennuyée de la cour que lui faisait son maître et flattée des compliments qu'il lui adressait. On l'avait courtisée au village, et un peu de coquetterie ne l'effrayait point. Elle n'avait aucune crainte des amoureux rustiques, ayant eu d'ailleurs peu d'occasion de s'en défendre. Marin Bonamy ne comptait pas, lui. Ce n'était pas un amoureux ordinaire, c'était le fiancé, presque un mari. C'est étonnant, comme de loin un marin tournait au mari. Les taquineries des gens de la maison n'avaient pas peu contribué à cette métamorphose. Madame Hortense avait prévenu dès le début qu'elle voulait voir respecter les innocentes fiançailles de sa petite servante. À l'office, on avait obéi, mais la malice humaine ne perd pas ses droits. On s'était rattrapé en exagérant les droits de marin et les devoirs de Monique. Toutes les fois qu'il était question d'amourette, on feignait, pour respecter les oreilles de la jeune fille, de s'en aller chuchoter dans les coins. Le valet de chambre de monsieur n'avait pas oublié la petite scène qui avait valu à Monique le surnom de Bouche d'or. Il ne lui avait jamais fait la cour, mais il l'observait avec une sournoiserie méchante qui ne demandait qu'un prétexte pour se manifester par des actes. En attendant, une de ses malices était de faire le vide autour de la fillette afin qu'elle n'eût personne à qui parler. Depuis son entrée dans la maison, un seul homme avait regardé Monique avec des yeux d'homme, et celui-là, c'était son maître. Elle le trouvait beau. Il sentait bon, il avait des mains blanches aux ongles bien luisants. Ses habits étaient élégants et fins. La porte du cabinet de toilette, parfois entr'ouverte lorsqu'elle passait, laissait entrevoir des choses extraordinaires, des brosses d'ivoire, des petits outils d'argent, une grande baignoire pleine d'eau parfumée. Le cabinet de toilette de madame n'était pas moins somptueux, mais c'était une femme, et de plus c'était sa petite madame, pour laquelle rien n'était trop beau. Pour un homme, un pareil déploiement de recherche élégante était vraiment bien étrange. Un peu de curiosité s'était infiltrée par degrés dans l'esprit chercheur de Monique à l'endroit de ce maître qui la regardait d'une certaine façon, comme si lui-même avait été curieux d'elle. Parfois, elle sentait les yeux bleus et rieurs de M. Dunois se glisser sous son fichu ou passer autour de sa taille comme il la déshabillait. Elle en rougissait de colère, mais elle n'y pouvait rien. Son orgueil de paysanne libre se révolta d'abord contre ses façons de maître libertin. Se figurait-il donc qu'elle fût à sa discrétion, comme une chose achetée, et qu'il n'eût qu'à lui faire des yeux doux pour qu'elle s'en trouvât très honorée? Puis, peu à peu, elle changea de manière de voir, se sentit flattée de l'attention que lui accordait cet homme, accoutumé probablement à fréquenter des dames élégantes et riches. Elle le regarda, le trouva beau, et n'en fut que plus fière de se voir l'objet de ses agaceries. À côté de ce sentiment de vanité, elle ressentait une obsession douloureuse. Les deux impressions n'allaient pas l'une sans l'autre, si bien qu'elle en éprouvait une certaine irritation. Oh, ce n'était pas au sujet de Marin. Oh non, Marin n'avait rien à voir dans ces choses-là. Il était là-bas, lui, et travaillait dans sa ferme. Il lui écrivait de temps en temps. Elle lui répondait. Bon, il se marierait dans 3 ans, tout était en règle de ce côté-là. L'inquiétude qui la tourmentait, c'était au sujet de sa petite madame. Qu'est-ce que Madame Hortense aurait dit si elle avait su de quel œil son mari regardait Monique? Bien sûr, elle aurait été fâchée, même elle aurait eu du chagrin. Pourtant, Monique n'y pouvait rien. Pouvait-elle empêcher M. Dunois de lui rire au nez quand il la rencontrait dans les escaliers ou dans l'appartement? Évidemment non. L'empêcher de la tutoyer? Pas davantage. De l'embrasser comme il venait de le faire? C'était bien difficile. Si elle se gendarmait, il se moquait d'elle et recommençait. Le mieux était de paraître n'y point prendre attention. En attendant, Monique était troublée, et tout en sentant qu'elle aurait dû faire quelque chose, ne savait ou ne voulait pas savoir ce qu'il eût fallu faire. Au lieu d'entrer dans l'appartement, elle monta l'escalier jusqu'en haut, s'assit au 3e dans l'intérieur d'une grande baie vitrée qui jetait une lumière vive sur le palier, et jusqu'au fond des corridors où s'ouvraient de chaque côté de nombreuses chambres d'employés et de domestiques. À 7 heures de l'après-midi, la maison tout à fait tranquille et silencieuse appartenait à la jeune fille qui aimait à la parcourir du haut en bas. Les domestiques étaient à l'office ou en flânerie. Madame Hortense occupée à recevoir des visites. Les employés à leurs affaires, Monsieur Dunois à la bourse. En effet, elle entendit bientôt une porte s'ouvrir, Le pas du maître décrut dans l'escalier. Le concierge ouvrit et referma la porte extérieure. Puis une grande porte vitrée qui séparait le vestibule de l'escalier. Et le silence régna partout. Monique jeta un coup d'œil au dehors. Les arbres dénudés s'agitaient au vent d'automne. La pluie ruisselait sur les branches noires et luisantes. La mer devait sauter le long de la falaise, là-bas, à Champseille. Une rafale fit craquer la fenêtre, et la fillette sentit le souffle glacial lui donner le frisson. Tout à coup, elle se rappela l'endroit où elle s'était assise avec Marin, le jour qu'on coupait la fougère à M. Mahaut. La mer devait recouvrir cette place-là aujourd'hui, et les papillons blancs des vagues s'envolaient bien haut jusque par-dessus les noisetiers. Ils tombaient peut-être dans le petit douai où le jeune Jean s'était regardé au clair de la lune. Émue, Monique fouilla dans sa poche, en tira une enveloppe salie, usée au coin, déplia la lettre qui y était contenue et se mit à lire très lentement, comme si elle apprenait par cœur les mots tracés par une main malhabile et sans souci de l'orthographe. C'est pour te dire, ma Monique, que je suis depuis la Saint-Denis à la ferme des Landes et que j'y suis aussi bien qu'on peut l'être hors de chez soi. Ce qui me fait le plus de chagrin, c'est de ne plus voir la mer. Quand j'étais dans la vieille maison et qu'il m'ennuyait de toi, je descendais la falaise et j'allais m'asseoir sur les pierres tout au bas. Il me semblait que tu y étais aussi et que le vent emportait mon ennui. Ici, en haut de la lande, on ne voit que du ciel et c'est triste. Tu penses à moi, bien sûr, car je ne songe qu'à toi. Mais le malheur, c'est que je ne sais pas quand. Et alors nos pensées ne se rencontrent pas. Écris-moi pour que je sache si tu as autant de chagrin que moi. J'en ai que pour toi, ça me ferait plaisir de le savoir. Ton marin pour la vie. Monique avait lu la lettre bien des fois déjà, et ce jour-là, il lui sembla la comprendre comme elle ne l'avait jamais comprise. Était-ce parce qu'elle venait d'avoir ce ressouvenir de la mer dont parlait son amie? Était-ce parce qu'elle sentait un remords pour avoir relégué si loin dans sa pensée le fiancé triste et esselé dans la grande ferme où rien ne lui rappelait le pays? Elle replia la lettre qu'elle remit dans sa poche et courut dans sa chambre. Jamais Monique n'avait pu s'accoutumer à retirer la clé lorsqu'elle s'en allait. Cela ne se faisait pas à Champsey, et les habitudes de Champsey seul étaient des lois. Aussi la clé était-elle sur la porte. Elle entra, s'assit devant sa petite table, et avec un crayon qui se trouvait dans le tiroir, elle écrivit une longue lettre dont les lignes irrégulières s'en allaient de bas en haut, escaladant la page. Mon cher promis, j'ai pensé à la mer aujourd'hui et comme toi, il m'ennuie de ne voir que du ciel et de la terre. Je suis triste de savoir que tu te fais du chagrin pour moi, et pourtant si tu ne t'en faisais pas, il me semble que ça me ferait de la peine. Et elle écrivait, entassant les phrases les unes sur les autres, dans son désir d'exprimer à la fois cent idées confuses, embrouillée dans sa petite tête. Elle parlait de Madame Hortense et pas du tout de Monsieur Dunois. De Hubert, ce méchant gamin qui avait l'air de se croire quelque chose, et de Monsieur Firmin, le valet qu'elle avait joliment arrangé avec ses manières, enfin, de toute la maison. « Sois tranquille, mon pauvre marin, disait-elle, je n'ai pas de galant. C'est ici une maison bien trop paisible pour cela. » Et je ne sors jamais. Et pourquoi avait-elle éprouvé le besoin de rassurer Marin qui n'avait témoigné aucune jalousie? Pourquoi avait-elle rougi en écrivant cette ligne? Pourquoi hésita-t-elle au moment de signer sa longue épître profuse? Elle termina cependant cette besogne compliquée, et s'apercevant que le jour baissait, elle pensa à la lampe de Madame Hortense. Sa lettre à la main, elle descendit en courant les deux étages qui la séparaient de l'appartement de sa maîtresse. Au moment où elle allait entrer, la porte de l'appartement de M. Dunois, située en face sur le palier, s'ouvrit et laissa passer le maître lui-même, rentré un instant auparavant. Il tenait à la main un petit paquet ficelé, et en voyant Monique qui s'était retournée, avec la mine un peu inquiète d'une personne en retard, il sourit, de ce sourire railleur que la jeune fille connaissait bien, n'aimait pas, mais qui la fascinait pourtant. « Qu'est-ce que tu tiens là ?» demanda-t-il en voyant la lettre dont elle n'avait pu écrire l'adresse faute d'encre. « Une lettre ? Ah, de ton bon ami ? Non, c'est moi qui l'écris à mon promis, monsieur, » répondit Monique en se redressant. Le mot dont s'était servi M. Dunois l'avait blessé. « À ton promis ?» répéta-t-il sans cesser de sourire. « Voyez-vous cela, l'heureux promis, et qu'est-ce que tu lui écris ?» Il étendait la main pour prendre la lettre. Monique se recula, ouvrant du même mouvement la porte de l'appartement de Madame Hortense. Monsieur Dunois resta sur le palier sans s'émouvoir. « Heureux promis !» répéta-t-il. Monique le regardait avec colère. Elle l'eût battu si elle avait osé. « Et c'est dans 3 ans que vous vous mariez ?»« Oui, 3 ans, moins 3 mois, » fit la fillette en le bravant du regard. « Moins 3 mois !»« Oh, tu auras pourtant ma petite occasion de m'user bien des paires de souliers d'ici là. Quand même tes souliers seraient encore plus gros et plus vilains que ceux que tu portes. » Il balançait au bout de son doigt le petit paquet ficelé qu'il avait rapporté. Monique restait sur le seuil, furieuse, indignée, ne sachant que dire. Il s'approcha et la poussa doucement à l'intérieur. « Entre eux donc, lui dit-il, sont-ce les chats qui t'ont appris à rester ainsi dans les portes? Ne sais-tu pas qu'on dit il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ?» Elle avait un peu résisté par défi, par pique de caractère. Il ne parut point y prendre garde. « Je voudrais qu'il me renvoyât, » pensa Monique, « si je lui disais une impertinence. » Et aussitôt, la pensée que Madame Hortense serait très mécontente arrêta cette velléité. Monsieur Dunois avait déjà ouvert la porte de la chambre de sa femme. « Et quoi, sans lumière, dit-il, on y voit goutte chez vous ?»« Monique n'a pas encore apporté la lampe, » répondit la voix de Madame Hortense. Ben, « elle écrivait à son amoureux, cela lui faisait paraître le temps court, je présume, » reprit la voix railleuse du maître. Par la porte restée entr'ouverte, Monique entendait, et elle se hâtait de réparer sa négligence. Mais ses mains tremblaient et elle se sentait maladroite. Elle parut pourtant avec la lampe allumée. « Enfin !» dit M. Dunois de son ton bon enfant. « Devinez, Hortense, ce que je vous apporte là !» Il secouait au bout de sa ficelle le petit paquet, soigneusement enveloppé. « Je ne sais pas deviner, » fit Madame Hortense en souriant. « Monique, donne-moi des ciseaux, » reprit tranquillement le maître. La fillette se rapprocha, tenant les ciseaux à la main. Monsieur Dunois coupa la ficelle et, sans se presser, développa une paire de mignons petits souliers. C'étaient des souliers fort simples, en chevreau noir, avec une bouffette de ruban. Il n'avait de remarquable que la perfection de la forme et l'excellence de la matière. « Quel drôle d'idée !» fit Madame Hortense en riant. Des souliers à moi qui ne marche pas. Oh, vous faites bien quelques pas dans l'appartement, reprit son mari. Alors pourquoi pas cette chaussure? En effet, oui, pourquoi pas, répliqua la jeune femme qui tournait et retournait un soulier au bout de ses doigts effilés. Ceux-ci sont fort gentils, mais comment avez-vous pensé à cela? En les voyant dans la devanture d'un magasin, répondit M. Dunois avec simplicité. Monique rougit jusqu'aux oreilles et s'agenouilla sur l'âtre pour arranger le feu. Son maître regardait la courbe élégante de ce petit corps fluet incliné vers la flamme. Marin l'avait admiré aussi jadis dans la même pose, mais avec un plaisir moins raffiné, car Marin n'était pas connaisseur. Les bûches s'étaient enflammées. Monique se releva et regarda ses pieds emprisonnés dans la grosse chaussure du pays. « Est-ce que cet enfant ne vous fatigue pas en marchant avec ses souliers villageois ?» demanda M. Dunois à sa femme. « Oh, j'y suis accoutumé, » répondit celle-ci avec bonté. « Monique, » reprit le maître, « il faudra renoncer à ces bottes de gendarme, mon enfant. » Des larmes d'orgueil blessé montèrent aux yeux de la jeune fille qui se dirigea sans mot dire vers la porte et sortit. « Mais vous lui avez fait de la peine, » dit Madame Hortense avec un léger reproche dans la voix. « Vous croyez? Oh, j'en serais désolé. Je la taquine parfois, car elle est drôle avec ses mines paysannes, mais je ne voudrais pas l'affliger. Oh, je trouverais moyen de réparer cela. » Il resta une demi-heure encore, aimable et bon causeur, après quoi il s'en alla dîner au cercle. Monique, en montant à sa chambre le soir, trouva sur son lit un paquet ficelé, absolument semblable à celui que M. Dunois faisait danser au bout de son doigt sur le palier. Un peu émue, elle l'ouvrit. Il contenait une paire de souliers exactement pareils à ceux de Madame Hortense. Les deux femmes avaient le même pied, quoique Madame Dunois fût beaucoup plus grande que sa petite servante. « Pareil à ceux de Madame ?» pensa Monique, pendant qu'une bouffée d'orgueil lui faisait monter le rouge au visage. « Tout pareil !» Hésitante, elle regarda les chaussures d'un air inquiet. Quelque chose l'avertissait qu'elle devait les mettre de côté, ne plus les contempler, ne pas les essayer surtout. Après quelques instants, elle fit un petit geste décidé, tira une belle paire de bas de sa commode et se chaussa lentement, en étirant avec soin les plis du bas. Puis elle mit les petits souliers, posa sa bougie par terre, tendit des deux mains les plis de sa jupe qui l'empêchaient de voir, et examina ses pieds mignons, si gracieusement sertis par le chevreau poli et les nœuds bouffants. « Pareil à ceux de madame, » se dit-elle encore. Un flot de pensées mauvaises, orgueil, vanité satisfaite, convoitise de biens jusqu'alors méprisés, dédain du passé, brusque soif de satisfaction nouvelle, envahit le cerveau de la jeune fille. Lentement, elle se déshabilla dans sa chambrette froide, dont le vent secouait l'étroite fenêtre, puis elle posa les souliers neufs sur la commode, de façon à les voir le lendemain en ouvrant les yeux, et souffla sa bougie avec regret. Pareil à ceux de madame, fut la dernière pensée de sa veille qui flotta toute la nuit dans son sommeil troublé. Chapitre 11. Les souliers dont Monique apparut chaussée le lendemain firent événement à l'office. Toinette grommela contre la jeunesse du temps présent qui ne se refuse aucun luxe, Alors que jadis, avec des goûts modestes, on conservait toutes les vertus. Monique faisait semblant de ne pas entendre, et se demandait néanmoins, avec une certaine inquiétude, ce que dirait Madame Hortense. À sa grande surprise, celle-ci sourit en la voyant, regarda d'un œil satisfait la chaussure élégante de la petite servante, et lui en fit compliment. Monsieur Dunois avait eu la précaution de lui annoncer le matin même qu'il avait, de sa propre autorité, remplacé les gros souliers par des fins pour ménager les oreilles délicates de la malade. Madame Hortense avait accepté cette explication comme une gracieuseté à son adresse. Un mot dit à Toinette arrêta les gronderies de la vieille fille et tout sembla rentrer dans la paisible routine de tous les jours. Monique était restée profondément troublée. Quelque chose était changé dans sa vie. Le tentateur avait trouvé le côté faible de cette nature ombrageuse. Une offre d'argent l'eût scandalisée, un présent banal l'eût fait rire, mais le don d'un objet tel qu'emportait la maîtresse qui l'employait, pareils à ceux de madame, touchait au vif le point sensible de l'enfant orgueilleuse. Monsieur Dunois continuait à lui parler quand il la rencontrait seule, avec une sorte de raillerie bienveillante, quoique un peu hautaine, qui piquait Monique et la laissait désireuse d'une revanche. Parfois elle la prenait, cette revanche souhaitée. Un mot, vif comme la détente d'un pistolet, s'échappait de ses lèvres, clouant net le maître à la fois caressant et impérieux. Ces escarmouches n'avaient pas de témoin. Monsieur Dunois se penchait alors sur la fillette et l'embrassait avec apparence de violence qui permettait à celle-ci de résister et de croire qu'elle résistait. Elle se figurait que ces scènes lui déplaisaient parce qu'elle en restait troublée, avec un vague mécontentement. Si elle eût voulu regarder au fond de son âme, elle eût vu que ce n'était pas de son maître qu'elle était mécontente, mais d'elle-même, que sa conscience mal satisfaite lui reprochait de supporter ce qu'elle eût pu empêcher dès le commencement, ce qu'elle pouvait empêcher même maintenant. Monsieur Dunois l'eût-il rencontré aussi souvent si elle n'avait pas aidé un peu le hasard? Jadis, elle le voyait à peine deux ou trois fois par semaine. À présent, il ne se passait pas de journée sans qu'elle le vît à quatre ou cinq reprises. Le palier qui séparait l'appartement de monsieur de celui de madame était le lieu ordinaire de leur rencontre. Le silence de l'escalier, toujours tranquille, hormis à certaines heures réglées, était leur sauvegarde, car le moindre pas y retentissait avec des échos prolongés, malgré le tapis qui recouvrait les marches. Là, près de la grande fenêtre qui donnait sur le jardin, le maître, beau, grand, riche, sentant bon, se penchait avec gourmandise sur le cou de la petite servante qui exhalait un parfum de jeunesse et de santé. Il aspirait avec volupté l'avant-goût d'une conquête qui ne le pressait pas, car c'était un gourmet qui savait le prix des jouissances et qui, sûr de réussir, ne voulait pas perdre une miette du régal qu'il se préparait. Il n'avait plus fait de cadeaux. Cet homme riche trouvait amusant d'être aimé pour lui-même et de supplanter le fiancé qui avait été aussi aimé pour lui-même. Après tant d'amourettes banales et payées, il se plaisait à cette fantaisie où son argent n'interviendrait pas pour dénouer une situation qui aurait assez duré. Qu'adviendrait-il de Monique dans les plans de M. Dunois? Mais rien du tout. Si l'on s'occupait de l'avenir des petites bonnes que l'on séduit, on emploierait en vérité fort mal son temps. Est-ce qu'elle ne se charge pas elle-même de ce soin? En mettant les choses au pis, Monique quitterait un jour la maison. Sans rien dire, bien entendu, qu'elle aurait tout intérêt à ne rien divulguer. Avec un peu d'argent, M. Dunois a été fort généreux sur ce chapitre. Elle irait à Paris. Est-ce qu'elles ne vont pas toutes à Paris? Mais si elle était vraiment intelligente, elle en avait bien l'air. Elle épouserait Marin avant le temps fixé, grâce aux économies qu'elle aurait pu faire dans son service. Et tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voyons, Monique, ne fais pas la bête, dit M. Dunois, un jour que, poussé par je ne sais quel remords plus aigu que de coutume, elle refusait obstinément de se laisser embrasser. Moi, mais ne me dites pas de ces choses-là, entendez-vous ? Répondit-elle soudain, l'œil et la joue en feu. Pourquoi donc ? Tu sais bien que tu fais semblant. Au fond, tu aimes bien que je t'embrasse. Il avait passé sa main autour du corsage de la jeune récalcitrante, et il sentait sous sa main son petit cœur qui battait vite, vite. Elle s'arracha brusquement à son étreinte et le regarda bien en face. « Quand cela serait ? » dit-elle. « Vous savez bien que c'est vous qui avez commencé et que c'est lâche, oui, lâche, tout plein. »« Oh, les grands mots, Monique, fi, c'est si vulgaire, les femmes qui font des scènes. » « Garde cela pour ton promis quand vous serez en ménage. » Elle fit un pas vers lui et il vit qu'elle était devenue tout à fait blême. « Ne parlez jamais de celui-là, je vous le défends. »« Mademoiselle Monique, vous êtes impertinente, » dit M. Dunois sans s'émouvoir. Si elle avait pu voir comme elle était jolie, elle eut eu peur pour elle-même. Elle allait parler, ses lèvres tremblantes s'ouvraient, ses yeux gonflés allaient laisser jaillir les larmes. Son maître la reprit dans ses bras et appliqua sur ses lèvres un long baiser qui lui ôta ses forces. La détente nerveuse et l'ascendant magnétique qu'il avait pris sur elle avaient brisé la résistance de la pauvre petite. Elle sentit à la fois, par un sentiment double, plus fréquent qu'on ne le pense, qu'elle détestait l'homme, mais qu'elle aimait le baiser. Quand il détacha ses lèvres, il dut la soutenir, car elle serait tombée. « Dis-moi donc encore des choses désagréables, » fit M. Dunois, qui la regardait avec satisfaction. « Je vous déteste, » répondit-elle d'une voix étouffée. Et c'était vrai. Pour la punir, il s'éloigna d'un pas. « C'est bon, dit-il, je ne t'embrasserai plus. »« Grand dommage, » fit-elle avec dédain. Il ouvrit sa porte et au moment d'entrer, la regarda avec cet air de supériorité railleuse qui irritait toutes les fibres orgueilleuses de la petite paysanne. Elle essaya de soutenir son regard, mais il vit à travers le battement des paupières tremblantes, éperdues, qu'il la tenait et qu'elle serait à lui quand il voudrait. Restée seule, Monique fit un violent effort pour se reprendre. Elle se redressa, passa le dos de sa main sur ses lèvres brûlantes, voulut oublier le baiser et le put. Elle en sentait le poison courir dans toutes ses veines, et en même temps qu'elle s'appliquait à penser combien c'était odieux, tout son être appelait le retour de la sensation délicieuse. La tête basse, les mains dans les poches de son tablier, elle monta quelques marches pour aller dans sa chambre, où elle serait seule, où elle pourrait rappeler le souvenir de ce qu'elle venait de ressentir. Puis elle se souvint qu'elle avait quelque chose à faire et que Madame Hortense devait l'attendre. Madame Hortense. Foudroyée à cette pensée, Monique s'appuya à la rampe de l'escalier. Madame Hortense, la femme de son maître, sa bienfaitrice, presque son amie, qui la traitait plus en enfant qu'en servante, il fallait paraître devant elle. Et si elle voyait le baiser, cela doit se voir, cela laisse des traces, bien sûr. On ne ressent pas une commotion semblable qui bouleverse l'être tout entier sans que quelque chose en paraisse à l'extérieur. Mais si Madame Hortense voyait cela, que penserait-elle, que dirait-elle à Monique ? Éperdue, celle-ci monta d'une traite à sa chambre, versa de l'eau dans une cuvette et, violemment, avec rage, elle lava, elle frotta, essuya le visage et les cheveux qui avaient été touchés par le maître. Quand ses mains furent lasses, elle s'arrêta, se regarda dans le miroir, lissa ses cheveux, mit un autre bonnet, brossa sa robe et voulut redescendre. On ne verrait plus rien, mais elle sentait le baiser qui la brûlait toujours. Elle entra pourtant dans la chambre de Madame Hortense, lui parla, l'entendit parler, remplit ses petits devoirs habituels, le tout comme en un rêve. Monsieur Dunois apparut, lui fit un signe de tête amical et sembla ne pas se souvenir qu'il se fût passé quelque chose. « Ah, est-ce que je l'aurais fâché ?» pensa Monique. « Quel bonheur !» Elle pensait « Quel bonheur !» Elle sentit que s'il ne l'embrassait plus, elle ne saurait que faire d'elle-même. Le calme du banquier l'épouvantait. « Mais cela ne lui fait donc rien à lui » pensait-elle. Il ne la voyait pas, il ignorait qu'elle fût là, et causait avec sa femme de choses indifférentes. Elle avait envie de pleurer, de crier, de s'en aller en courant n'importe où, et surtout de jeter ses bras autour du cou de cet homme qui l'avait affolé et qui n'avait pas l'air de s'en douter. N'y pouvant plus tenir, elle passa derrière lui, sous quelque prétexte pour l'effleurer, pour qu'il fût obligé de s'apercevoir de sa présence. Et, l'espace étant étroit, il sentit la chaleur de ce petit corps fiévreux sous la robe de laine. « Très mince, Monique, dit-il, mais pas au point d'entrer dans un trou de souris. » Et il se leva pour qu'elle pût revenir sans le toucher. Elle se glissa hors de la chambre, car ses larmes coulaient sur son visage sans qu'elle pût s'en défendre. « C'est abominable !» dit-elle en frappant du pied quand elle fut seule sur le palier. « Mais je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Mais pourquoi m'a-t-il embrassée ? Je ne pensais pas à lui. C'est pas ma faute, je n'ai pas mérité cela. Non, 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 mais je ne veux pas !» La porte s'ouvrit. Monsieur Dunois reparut, son journal et sa canne à la main, prête à sortir. En voyant Monique, ses yeux brillèrent d'une lueur rapide qu'elle n'y avait pas encore vue. S'assurant d'un coup d'œil qu'ils étaient bien seuls, il la renversa sur son épaule et lui donna un second baiser plus pervers encore que le premier. Elle glissa à genoux en disant tout bas « Grâce !» La porte vitrée se referma en bas et un pas rapide monta l'escalier. Monique se releva, chancelant sur ses jambes qui tremblaient, et s'enfuit dans les détours du grand appartement. « Bonjour, Hubert, dit M. Dunois en ajustant son chapeau. Des lettres ?»« Non, pas pour vous, monsieur, répondit le jeune homme en le saluant. « Alors, adieu !» fit le banquier en descendant d'un pas tranquille. Hubert entra dans la chambre de Madame Hortense. « Monique !» appela celle-ci un instant après. La jeune fille accourut, une joue rouge et l'autre pâle, troublée au point de se heurter au meuble. « Mais tu as l'air malade, dit Madame Hortense, avec intérêt. « Oui, la tête me tourne, » répondit la petite en toute sincérité. « Mais va faire une promenade, j'ai pas besoin de toi pour le moment, et cela te fera du bien. Tiens, voici une lettre pour toi. » Monique regarda l'adresse. C'était Marin qui lui écrivait. Elle mit la lettre dans sa poche, sortit et s'en alla droit devant elle. C'était plus que la tête qui lui tournait. Le monde entier, pris de vertige, semblait s'enfoncer sous ses pas dans un gouffre plus redoutable que les sombres remous de l'océan. Elle monta la colline sur laquelle Rouen s'étage, sans regarder en arrière, en courant, s'essoufflant volontairement, sentant battre les veines de ses tempes avec une satisfaction méchante. Cela lui faisait mal, et tant mieux. Si elle avait pu avoir plus mal encore, cela eût certainement mieux valu. Elle heurtait les cailloux avec rage de son petit pied orné de sa fine chaussure, et une touffe d'ortie s'étant trouvée à portée de sa main, elle la prit à pleine poignée. Cela aussi fait mal. Et elle eût voulu que tout son corps ne fût qu'une douleur pour jouir délicieusement de cette torture. Un souffle d'air vif et pur la frappa au visage. Elle s'arrêta, chancelante, sentant ses jambes fléchir sous elle, tant elle était lasse. Elle avait couru longtemps, les yeux fixés sur le chemin. Rouen était sous ses pieds, dans la vallée où la scène se déroule si magnifiquement, autour des coteaux qu'elle semble ne pouvoir quitter et des îles qu'elle embrasse comme d'une caresse. Les flèches des églises s'élançaient légères et fines, et leur tour royale crénelée d'une dentelle de pierre qui semble porter des couronnes au-dessus des sanctuaires émergeait des toits houleux. La brume sombre qui flotte sur les fleuves vers le déclin du jour noyait les détails vulgaires et ne laissait voir que les grandes masses de pierres noircies. Le soleil de décembre allait se coucher dans une gloire de pourpre violette au-dessus d'un écroulement de nuages gris d'ardoise, et cette splendeur lugubre jetait sur la ville de sinistres lueurs d'incendie. « C'est comme la mer, » pensa Monique, saisie d'un frisson douloureux. Que de fois là-bas, sur les roches noires, elle avait vu les vagues blanchissantes accrues à l'assaut se franger d'une écume couleur de sang à cette heure où le soleil d'hiver semble éclairer un champ de bataille. Elle n'y prenait point garde alors et remarquait à peine ce que ce spectacle avait de saisissant et de terrible. Aujourd'hui, la majesté redoutable de la nature lui apparaissait comme un reproche. Elle se laissa glisser à terre parmi les cailloux de la route et sentit craquer sous sa jupe le papier froissé de la lettre qu'elle avait reçue avant de sortir. « Je ne la lirai pas !» se dit-elle en la saisissant avec colère pour la déchirer. Au moment où elle en tordait l'enveloppe entre ses deux mains, elle eut peur comme d'un sacrilège. « J'ai donné ma parole, » pensa-t-elle. « J'ai promis d'être honnête et d'être fidèle. » La lettre retomba sur ses genoux avec ses deux mains découragées. « Eh bien, » reprit-elle tout haut, « je suis honnête, je suis fidèle, je n'ai rien fait de mal. Je ne sais pas pourquoi je m'imagine des folies. Mais qu'ai-je fait? Rien. Rien du tout. » Elle arracha une poignée d'herbe sèche qu'elle se mit à mâchonner d'un air d'une supériorité satisfaite. « Rien du tout, » répéta Monique. « Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Je ne suis plus l'enfant et je sais me conduire, n'est-ce pas ?» Elle regarda le couchant d'un air de défi s'adressant à un être imaginaire qui devait se le tenir pour dit et ne plus se hasarder à la contredire. D'un geste délibéré, elle fit sauter l'enveloppe, déplia le papier et elle lut. « Ma Monique, voilà plus d'un mois que tu ne m'as pas donné de tes nouvelles et le temps me dure. Je pensais que tu aurais répondu à chacune de mes lettres comme tu me l'avais promis, et en voilà deux que je t'écris sans rien recevoir de toi. Celle-ci sera la troisième. Je pense bien que tu es trop occupé pour m'écrire comme je le voudrais. À la ville, on a plus d'ouvrages l'hiver qu'à la campagne, où l'on ne fait pas grand-chose. C'est même pour ça qu'il m'ennuie si fort de toi. Tâche de trouver un petit moment pour me dire que tu es contente et que tu te portes bien. Cela m'aiguera le cœur de le savoir. J'ai souvent peur que tu ne te décourages en voyant comme c'est long 3 ans. Mais pense, ma Monique, qu'après ce temps-là, nous serons ensemble pour la vie. C'est ce que je me dis tous les soirs quand j'ai le cœur gros de penser que nous sommes si loin l'un de l'autre. Voici le nouvel an tout proche. Je crois que j'aurai une surprise à te faire, mais je ne veux pas te le dire d'avance parce que ce ne serait plus une surprise. Je t'embrasse comme je t'aime, ton fidèle Marin. » Monique avait eu de la peine à déchiffrer les dernières lignes de cette lettre. Était-ce parce que le jour s'assombrissait, ou bien parce qu'elles étaient d'une écriture moins régulière et moins ferme? Un peu d'humidité avait brouillé l'encre pâle sur la page. Ce pouvait être une larme, et ce n'était peut-être aussi qu'une goutte de pluie. Les yeux de la jeune fille s'étaient troublés à cette lecture, mais elle ne voulait pas pleurer. Pleurer pourquoi? 3 ans sont bien vite passés. Le nouvel an approchait, en effet, ce serait dans 8 jours. Après janvier, il n'y aurait plus que 2 ans et demi. Et Monique était bien décidée d'ailleurs de ne pas attendre jusque-là. L'hiver fini, elle retournerait à Champsay avec les beaux jours. Elle supplierait sa mère. Et si Clémence était inflexible, eh bien on irait ailleurs, mais elle ne reviendrait pas chez Madame Hortense. « Ma petite madame, s'écria-t-elle, moi qui vous aime tant, si belle, si bonne, si... Est-ce que je pourrais jamais en servir une autre que vous ?» La beauté, la bonté, le tendre sourire, la douceur touchante du visage et de toute la personne de Madame Hortense apparurent à Monique comme l'incarnation de l'idéal. Elle ne savait pas ce que c'est que l'idéal. Et si l'on avait tenté de le lui expliquer, on eût bien eu de la peine à le lui faire comprendre. Mais c'était l'idéal qui révélait aux yeux de la petite paysanne à demi séduite la forme de sa maîtresse vouée à la douleur, et pourtant elle-même toujours compatissante. Son cœur, violemment remué par un immense besoin d'aimer, s'en allait à cette chère créature punie sans avoir péché. Marin était trop loin. Monsieur Dunois n'avait rien à voir avec ce cœur ardent et inassouvi. C'est Madame Hortense qui recevait cet hommage inconscient et nécessaire, qui s'exhale un jour de tout être aimant. Il lui arrivait, douloureux, tourmenté, plein de larmes, comme un remords, comme une expiation, et en même temps pur et spontané, comme la première floraison d'une âme vierge. « Ma petite madame, murmurait Monique en joignant les mains, comme devant une sainte, je vous aime plus que tout au monde. Ne me laissez pas vous faire du chagrin. » Les vapeurs montaient de la rivière, les lueurs de pourpre avaient disparu, et de minces bandes jaunes les remplaçaient entre les nuages gris de fer. Monique se leva pour redescendre vers la ville. Autour d'elle, c'était le désert et le silence. Les maisons de campagne qui parsemaient le coteau, abandonnées l'hiver, ne sont guère visitées que le dimanche. Elle jeta un regard enthousiaste autour d'elle, comme pour prendre à témoin ce lieu de la résolution d'aimer Madame Hortense plus que tout au monde, et elle se mit à courir le long du sentier incliné. Une vague rumeur, frémissante et confuse, parcourut l'espace avec une vibration puissante, et presque au même moment, un coup de cloche profond et sonore traversa la vallée comme un corps palpable. De toutes parts, les cloches retentirent, petites et grandes, aiguës et pesantes, lourdes et légères, lancées à toute volée, ébranlées à grand-peine par des hommes robustes qui soupiraient sous l'effort. On entendait leurs timbres divers, on pouvait presque se représenter dans les clochers les sonneurs qui mettaient en mouvement chacune d'elles, tant elles avaient de personnalité dans le son de leurs coups de métal, pleines d'harmonie comme une coupe de cristal et pleine d'eau tremblante jusqu'au bord. « C'est demain Noël !» dit Monique, et dans le crépuscule envahissant, elle s'arrêta pour écouter. Le son montait à elle comme la marée monte aux roches. Parfois, il semblait accourir avec force pour escalader la colline, puis emporté au loin, comme par un remous de vagues, il semblait se perdre et s'effacer sur l'autre rive bien loin. On eût dit qu'alors la Seine emportait les ondes sonores comme elle emportait les flots argentins. Puis il revenait, éloigné d'abord, plus proche ensuite. Il accourait, il grandissait, il montait, emplissant l'espace, répercuté par les collines, si puissant, si prodigieux qu'il dépassait de 100 coudées Monique debout, tête baissée, avec l'impression que l'énorme masse, en s'écroulant, allait l'écraser. La vague d'harmonie se déroulait autour d'elle, la frôlant à peine, et l'inondant pourtant de vibrations mystérieuses dont elle se sentait ébranlée jusqu'au plus profond d'elle-même, puis elle se retirait, laissant une traînée de son qui semblait s'accrocher à tous les objets comme le brouillard, entraîné doucement par le vent, laisse des flocons aux branches semblables à des flocons de laine. Monique, éperdue, presque effrayée, n'osait bouger, comme si un mouvement eût dû rompre le charme. « Et où ai-je entendu quelque chose qui ressemble à cela ?» se demanda-t-elle tout à coup, essayant de se redresser, de se ressaisir. « Ah, je sais, les vagues !» Et, fermant les yeux, elle revit devant elle comme une apparition la lune sur la mer. Marin assis près d'elle, et les vagues en bas sur les rochers, montant et descendant avec le bruit lointain d'un cristal incessamment brisé. « Chancez, chancez !» s'écria Monique, se jetant la face contre terre sur l'herbe du chemin que l'humidité rendait luisante. « Oh, mon pays, je veux retourner chez nous !» Elle se leva sur le champ, et sans prendre le soin d'essuyer ses larmes qui coulaient sur ses joues, elle courut tout d'une traîne jusqu'à la maison. « Je vais dire à madame que je veux retourner chez nous », se disait-elle en montant l'escalier aussi vite que ses jambes pouvaient la porter. Elle frappa à la porte de la chambre de madame Hortense et entra sans prendre le temps de respirer. Il était là, son maître, celui qui la possédait par toutes les fibres de son être, sans qu'elle le sût elle-même. Il lisait à haute voix un article de journal et s'arrêtait de temps en temps pour rire. Quand il la vit, il posa sur elle ses yeux bleus, brillants et magnétiques. Le journal formait un écran entre sa femme et lui, comme il s'en assura. Alors lentement, sans cesser de tenir Monique sous son regard, il avança ses lèvres comme pour un baiser. Elle lui jeta un regard de mépris. Avec un haussement de sourcils étonné et dédaigneux, il reprit sa lecture. Monique, debout, n'osant interrompre, attendait qu'il eût fini pour formuler sa demande. Mais il n'était pas pressé, et lisait à loisir, s'arrêtant à des réflexions qui faisaient rire Madame Dunois. Dépitée, Monique se détourna, et par contenance se mit à ranger divers objets épars çà et là. À mesure qu'elle tenait sous ses doigts ces choses familières qui faisaient à présent partie de sa vie, elle sentait faiblir sa résolution. Partir, le pourrait-elle ? Et pendant qu'elle se le demandait, la voix du maître continuait sa lecture. Cette voix pénétrait Monique par tous les pores et l'enveloppait d'une caresse, comme les cloches là-haut sur la colline l'avaient enveloppée de leur harmonie. Sa lecture terminée, M. Dunois replia son journal, se leva, dit quelques mots et se dirigea vers la porte. En passant près de Monique, sous prétexte de lui dire bonsoir, il effleura lentement de ses doigts le cou de la petite servante qui frissonna. « Tu avais l'air d'avoir quelque chose à me dire, » demanda Madame Hortense quand son mari fut sorti. « Qu'est-ce que tu voulais ?»« Rien, » répondit Monique.